VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Conakry, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Relations États-Unis-Afrique, l'administration Trump poursuit sa croisade contre l'immigration clandestine et elle a décidé de ne pas accorder des visas aux ressortissants de 4 pays africains qui auraient refusé de coopérer pour l'expulsion de leurs compatriotes en situation illégale aux États-Unis. Parmi ces pays, la Guinée, Mamadi Kondé, ambassadeur de la Guinée à Washington, explique le cas de ses compatriotes.
Tous ceux qui ont été notifiés, ils ont postulé pour être éligibles à la Green Card, on leur a refusé, donc ils sont versés automatiquement dans la catégorie des gens séjournant aux États-Unis sans papier. Donc c'est ce qu'ils veulent dire, les notifier à la déportation. Pour le moment, nous sommes à 75 déportés et il y a encore des chiffres, parce qu'on vient de me déposer un certain lot qu'on vient de déposer à l'ambassade. Nous sommes en train d'examiner avec les nouvelles autorités, parce que vous savez, il y a eu un remaniement chez nous. Le nouveau ministre, nous sommes en train de travailler et nous allons prendre des initiatives rapidement pour rétablir l'ordre des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que la Guinée n'a jamais refusé de recevoir ses citoyens.
Mamadi Kondé, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo se poursuit à La Haye. L'ancien leader est poursuivi par la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes contre l'humanité. Et ses avocats plaident pour sa mise en liberté provisoire. Des milliers de personnes suivent ce procès de très près en Côte d'Ivoire, en particulier Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo. Michel Gbagbo nous dévoile ici son état d'esprit.
Être son fils m'habille, me vêt d'une certaine responsabilité. Je ne dois pas dire des mots qui jettent de l'huile sur le feu parce que la situation est assez instable dans ce pays. Il faut travailler avec tous les acteurs. Il ne faut pas simplement penser qu'un camp est le groupe des saints, un camp est le groupe des méchants. Non, c'est tous les Ivoiriens qui ont été responsables. Au-delà de ma personne, tous ceux qui se reconnaissent dans le président Laurent Gbagbo doivent travailler au retour du président Laurent Gbagbo, qui est un élément essentiel à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire.
Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, propos recueillis par notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara. Le polémiste français Kémi Séba a été acquitté mardi par un tribunal de Dakar où il était poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA lors d'une manifestation contre la France-Afrique le 19 août dans la capitale sénégalaise. Le parquet avait réclamé une peine de 3 mois de prison avec sursis contre Kémi Séba et la relaxe de son co-prévenu. Jemal Taleb, avocat d'affaires à Paris, a saisi l'occasion de la création d'un conseil présidentiel pour l'Afrique par le président français Emmanuel Macron pour donner son opinion sur le CFA.
J'ai bien peur que la France n'ait pas encore compris que le franc CFA est une donnée de l'histoire coloniale et qui n'a plus de sens aujourd'hui. J'ai bien peur que les dirigeants français ne l'aient pas compris. J'ai d'ailleurs pas davantage confiance dans les chefs d'État africains aujourd'hui qui n'ont tous pas le courage de le comprendre. L'ancien président ivoirien, le président Gbagbo, disait une chose à juste titre. Il dit « Nous avons deux problèmes, le franc CFA et les armées françaises en Afrique. Il faut relativiser. Moi, je ne suis pas pour casser quoi qu'il en soit, mais je pense que le franc CFA n'a plus de sens aujourd'hui. »
Jemal Taleb, avocat d'affaires à Paris. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé 11 passagers d'un bus mardi près de la ville pétrolière de Port-Harcourt dans le sud-est du pays. Les détails avec John Lindon.
Ils nous ont tendu une embuscade vers 21h entre les communes de Ndélé et Lélé Alimini et après nous avoir demandé de sortir du bus, ils ont essayé de nous amener en brousse, mais 5 d'entre nous se sont échappés avant l'arrivée des secours, a déclaré un rescapé de l'attaque. Joint au téléphone, un autre passager ayant réussi à fuir a confirmé l'attaque, précisant que 15 passagers et le chauffeur se trouvaient à bord du bus au moment de l'attaque. Des équipes mixtes composées de policiers et de soldats ont été déployées dans la zone à la recherche des ravisseurs et de leurs victimes. C'est le troisième incident de ce type qui survient en l'espace de 2 mois dans la région. Le ministre de la police de l'État de Rivers, Ahmed Saki, a affirmé hier lors d'une conférence de presse que les recherches pour retrouver les victimes étaient toujours en cours. Les enlèvements contre rançon sont fréquents dans le sud-est pétrolier du Nigeria, où les gangs criminels ciblent généralement les travailleurs expatriés. L'or noir représente 70% des recettes publiques du Nigeria et 90% de ses revenus d'exportation.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, au moins 8 personnes, dont des civils, ont été tuées et 29 autres blessées lors d'accrochages durant les 7 derniers jours dans le nord-ouest du pays, sur l'axe Bria-Yalinga. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires, OCHA. L'identité des belligérants dans ces combats reste inconnue jusqu'à ce jour. Bria, qui se trouve à 450 km au nord-est de Bangui, a été en proie à une recrudescence de violence entre le 16 et le 19 août. Des violences qui ont fait au moins 13 morts. Ces affrontements ont opposé la milice XLK du FPRC, le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique d'Abdoulaye Hissène, à des miliciens anti-Balaka. Bria est le cœur de la production de diamants dans l'est du pays, avait souligné fin 2016 le groupe d'experts de l'ONU sur la Centrafrique, dans un rapport notant que le trafic illicite de diamants en provenance de Bria s'y est développé. Au Kenya, le compte à rebours a commencé. La Cour suprême annoncera sa décision demain vendredi sur le recours déposé par l'opposant Raila Odinga qui conteste la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta aux récentes élections. Le point avec Eric Manirakiza.
La Cour suprême a déclaré hier tard dans la nuit qu'elle a terminé l'examen sur le fond du recours pour irrégularité du scrutin du 8 août. La plainte a été déposée par l'opposant Raila Odinga, qui conteste la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Les avocats représentant NASA, une coalition de l'opposition, ceux de la commission électorale et de M. Kenyatta, ont présenté tour à tour leurs arguments et des contre-arguments devant la Cour. Son président David Maraga a indiqué que les débats ont amené les parties à la fin de la procédure et a précisé que le jugement sera annoncé vendredi. Si la Cour valide l'élection, M. Kenyatta sera investi une semaine plus tard pour un second mandat de 5 ans. Au cas contraire, la commission électorale disposera de 60 jours pour organiser une nouvelle présidentielle. Deux jours de manifestations qui ont suivi l'annonce de la victoire de M. Kenyatta avaient provoqué des émeutes dans les bidonvilles de Nairobi et dans l'ouest des bastions de l'opposition. La répression policière a fait au moins 21 personnes tuées les 11 et 12 août.
En Arabie Saoudite, plus de 2 millions de musulmans venus des quatre coins du monde entament ce mercredi le Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, un parcours en plusieurs étapes qui se déroule au cœur de la première ville sainte de l'islam et dans ses environs. L'étape la plus importante est prévue pour ce jeudi 31 août avec le stationnement à Arafat. 3 ans après la tragique bousculade de Mina qui a fait près de 720 morts, les pèlerins continuent toujours d'affluer en Terre Sainte. Reportage à la Mecque de notre envoyé spécial Siriki Baro.
Les étapes de Arafat, Mina et Muzdalifa sont les points clés du Hajj. Et sur chacun de ces sites, près de 4 millions de fidèles musulmans se retrouvent. Pour assurer la sécurité de tout ce monde et ainsi éviter le drame de 2015 à Mina, les autorités saoudiennes ont pris des dispositions. L'imam Bachir Ouattara est le président du commissariat du Hajj pour l'État de Côte d'Ivoire. En contact permanent avec le ministère saoudien du Hajj, il nous donne les grandes lignes de ces nouvelles mesures sécuritaires.
Les autorités saoudiennes en la matière ont pris des dispositions. Quand les pèlerins arrivent à Muzdalifa de retour d'Arafat, ils interdisent strictement aux pèlerins de continuer sur la Jamarat. Donc les pèlerins sont obligés de passer sous les tentes où ils vont prendre le petit déjeuner, se reposer et attendre la programmation de Jamarat prévue par le ministère du Hajj pour qu'ils passent lapider les stèles, mais accompagnés et encadrés par les bureaux. Même cette année encore, il y a eu une innovation, un changement. L'année dernière, lorsqu'on partait lapider le stèle, on revenait par la même voie. Donc ceux qui partaient, ceux qui revenaient se croisaient. Donc ils ont changé, c'est là tout ça pour éviter le drame que s'est passé.
L'incident de 2015 n'a nullement porté atteinte à la foi de ces nombreux croyants musulmans, comme le confesse Alassane Cissé, un pèlerin venu du Sénégal.
Nous n'avons pas peur de faire le Hajj, d'abord parce que nous pensons que les causes et les incidents ainsi que les erreurs qui avaient été à l'origine de cette bousculade et des malheurs qui ont été engendrés, nous pensons que ces causes ont été jugulées, en sorte que de tels incidents ne risquent pas de survenir une nouvelle fois. L'autre considération, c'est que nous sommes animés d'une foi qui est telle que nous ne faisons qu'accomplir un des piliers de notre religion. Et dans le cadre de l'accomplissement de ce pilier de notre religion, nous le faisons sous la protection de Dieu et nous croyons en ce qui peut être notre destin.
Notons que c'est ce vendredi 1er septembre qu'aura lieu l'étape de Mina qui consiste à la lapidation des stèles par les pèlerins. Siriki Baro, depuis la Mecque, pour VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.